Bonjour, ici Maxime Coutier, animateur d'Aujourd'hui l'Histoire. Voici un des épisodes de cette semaine. Pour écouter les autres, ils sont disponibles en exclusivité sur Radio-Canada Audio. Bonne écoute! C'est une autoroute fluviale entre l'Atlantique et le cœur économique de deux pays. Un ouvrage colossal qui a transformé la navigation sur le fleuve et les grands lacs. Ici Maxime Coutier, à Aujourd'hui l'Histoire, la voie maritime du Saint-Laurent.
Ça fait combien de temps que vous naviguez, vous?
Ça fait 27 ans sur les Grands Lacs pour la Canada Steamship Line.
Vous avez connu, en somme, le régime du canal de la Chine, de l'ancienne voie maritime.
Oh oui.
Et puis le nouveau régime de la nouvelle voie maritime.
Exact. Alors c'est beaucoup plus facile dans la nouvelle voie maritime, c'est moins dur pour tout le monde.
Les propos du capitaine Ménard dans un reportage du journaliste Claude-Jean Devirieux, c'était à notre télé le 27 juin 1969. 10 ans plus tôt, en 1959, la reine Élisabeth II inaugurait en grande pompe la voie maritime du Saint-Laurent. Un ouvrage immense, considéré comme une des merveilles de l'ingénierie moderne. 50 travaux, 1 milliard de dollars, plus de 306 kilomètres de voies navigables et 7 écluses. Une porte d'entrée vers l'Amérique du Nord qui allait aussi contribuer à l'essor de l'économie des Grands Lacs.
Le fleuve Saint-Laurent coule au travers d'une immense vallée qui s'étend au sud du Grand Bouclier canadien. Le long de son cours, les terres produisent une culture variée. Mais cette vallée fertile et paisible est en ce moment le théâtre de vastes travaux qui exerceront des répercussions profondes sur l'avenir du Canada, des États-Unis et du monde entier. D'énormes machines y creusent le sol, y percent le roc, bouleversent les lieux de fond en comble. Pour élargir et approfondir le lit du Saint-Laurent et le rendre navigable sur tout son parcours, il faudra creuser plus de 51 millions de pieds cubes de terre et de roches qui n'avaient pas bougé depuis l'âge des glaciers. Il faudra déplacer des centaines de demeures, car il s'agit de tracer un chemin au travers d'un continent, ouvrir un passage à une artère vitale, et ainsi réaliser un grand rêve, la voie maritime du Saint-Laurent.
Un extrait d'une émission spéciale présentée à notre télé, c'était en mai 1958. Pour en parler, mon invité, William Lacasse, il est chercheur en ethnologie à l'Université Laval, spécialisé en patrimoine maritime. On le joint dans nos studios à Québec. Bonjour.
Bonjour.
On dit une autoroute fluviale, hein, percer un chemin à l'intérieur d'un continent, mais qu'est-ce qu'on définit exactement comme la voie maritime du Saint-Laurent?
Ce qu'on appelle aujourd'hui la voie maritime du Saint-Laurent, de manière plus précise, c'est le système de canaux et d'écluses entre Saint-Lambert sur la rive sud de Montréal et Port-Colborne en Ontario. En fait, c'est vraiment un réseau de communication qui permet de passer du fleuve Saint-Laurent vers les Grands Lacs. On peut aussi voir le terme dans la littérature comme s'étendant jusqu'au lac supérieur en amont ou même jusqu'au golfe en aval. Mais vraiment, de manière technique, c'est la voie qui est couverte entre l'entrée du port de Montréal et les Grands Lacs.
Oui. Puis, avec plusieurs tronçons, puis on va y revenir, mais la version longue va effectivement du golfe du Saint-Laurent, il faut voir sur une carte, là, au lac supérieur. On est rendu au Minnesota avec un dénivelé. C'est un vieux rêve qui remonte à la Nouvelle-France parce qu'il y a, bien sûr, puis c'est Jacques Cartier qui le note, les rapides de la Chine là, qui empêchaient la navigation, entre autres.
Bien, déjà, la préhistoire, on comprend l'importance du fleuve comme un lien commercial. C'est vraiment une route directe vers l'intérieur du continent qui favorise l'approvisionnement en ressources, les échanges. Mais la communication entre les lacs est quand même assez ardue. C'est quand même nécessaire de faire plusieurs portages pour arriver à communiquer entre eux. Une navigation complète et directe sur le fleuve vers les Grands Lacs devient comme, disons, une utopie ou un rêve. Car les Européens, comme Jean-Nicolet, commencent à explorer les Grands Lacs, on comprend assez bien que des bateaux de moyen tonnage ne peuvent pas franchir les rapides. Donc, les Grands Lacs sont entre eux un important réseau de communication intérieure qui peuvent donner accès à bon nombre de points de ravitaillement, de ressources variées. Mais c'est vraiment à partir de 1689 qu'on va commencer à voir l'intérêt d'ouvrages qui permettent de franchir cette grande marche-là que sont les rapides. Donc, l'idée d'un canal qui permet de passer entre Montréal et les pays d'en haut, d'alimenter les moulins, en franchissant le Sault Saint-Louis, qui sont aujourd'hui les rapides de la Chine. On l'attribue à François Dollier de Casson. C'est un projet qui a été abandonné malheureusement en 1700 par manque de fonds. Mais tout de même, on associe aux Français la première idée d'un système de communication inter-rapide, si on veut.
Avec des moyens plus modestes, évidemment. Alors, en 1689, on n'a pas la technologie qu'on aura en 1959. Initier ces travaux par les Français, l'idée de contourner puis de creuser comme ça un canal, et ce sont les Britanniques qui ont complété le travail par la suite.
Absolument, pour des raisons économiques, mais aussi pour des raisons militaires. On n'oubliera pas, 1775, 1812, les événements importants vont avoir lieu dans la colonie. La guerre d'indépendance américaine, la guerre de 1812, les tensions entre les Américains et les Britanniques amènent un intérêt pour la colonie à contrôler les cours d'eau. Donc, les villes doivent être accessibles l'une envers l'autre. On voit l'importance aussi de pouvoir contrôler le fleuve Saint-Laurent au complet. Donc, les premiers canaux qui vont avoir été construits, c'est vraiment à partir du début du 19e siècle. On va voir aussi des avantages économiques à construire des canaux. Un des premiers canaux à être construit, c'est le canal Welland entre le lac Ontario et le lac Erie. Le premier canal va ouvrir en 1829. On cherche à créer une voie entre le lac Ontario et le lac Erie. On a un obstacle majeur, les chutes Niagara.
Oui,
qui ont quand même une certaine hauteur.
Oui, ben oui, disons.
Donc, on comprend que pour pouvoir franchir déjà les rapides Niagara et aussi les chutes elles-mêmes, on a un important chantier qui s'annonce. Mm-hmm. On parle d'une centaine de mètres de dénivelé quand même. Donc, c'est en 1829 qu'officiellement le premier canal Welland va être inauguré. Ce qu'il faut comprendre avec les canaux, c'est qu'ils vont être construits en différentes phases. On va construire une première tentative. Un deuxième va être aménagé pour répondre à des nouveaux besoins, que ce soit au niveau du tonnage ou au niveau du fonctionnement même des écluses. On se comprend que c'est quand même quelque chose qui requiert un bon volume d'eau pour pouvoir être utilisé. Au cours du 19e siècle, c'est vraiment plusieurs tentatives, plusieurs canaux qui vont être aménagés, reconstruits tout le long des Grands Lacs pour permettre le passage des navires. Ils répondent à des besoins locaux. Ils ne sont pas nécessairement uniformes entre eux, comme on le verrait aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, on ne peut pas vraiment parler de voies maritimes proprement dites encore, mais tout de même de canaux majeurs qui sont aménagés, qui vont permettre un franchissement local de certains cours d'eau.
Oui. L'un des plus connus, ici à Montréal, bien sûr, c'est le canal Lachine, hein, qui va être pendant assez longtemps, des décennies, le cœur industriel du Canada. Mais il reste que, à l'époque moderne, là, ça devient trop petit. En fait, c'est ça, c'est que le canal Lachine, comme tous les autres, ils sont pas assez larges, ils sont trop étroits.
Les canaux ont leurs limites. Oui. Les navires commencent à s'accroître en tonnage. On a un enjeu important de commerce. Donc, qui dit commerce dit rentabilité, volume. Donc, on doit répondre aux besoins de chaque période. Donc, effectivement, avec le temps, les navires commencent à grossir en tonnage et les canaux ne répondent plus aux besoins de cette période-là.
Mmh. Bon, il reste que le projet de voie maritime moderne, là, tel qu'on le connaît, on l'a imaginé, mais ça a mis du temps à se concrétiser parce que les États-Unis n'étaient pas très chauds à l'idée. Pourquoi les Américains s'opposaient à un ouvrage comme celui-là?
Les Américains, avec beaucoup de réticence, sont restés un peu, disons, frileux sur le projet. Déjà vers la fin du 19e siècle, on s'intéresse à la faisabilité d'un partenariat de gestion Canada-États-Unis pour certains secteurs de l'écluse, parce qu'on n'oubliera pas que dans le Canada contemporain du 19e, les Grands Lacs ne passent pas seulement au Canada. Mmh. On a quand même des secteurs qui sont touchés par les États-Unis. On peut penser, par exemple, à ce qui est aujourd'hui l'écluse Eisenhower, qui se trouve à être un petit peu en amont sur le lac Ontario, donc en face de Cornwall, à peu près.
Oui, oui.
Les Américains, en fait, tout simplement, voient de la réticence. En fait, même le Canada, au début, voit de la réticence, entre autres, de la part du Québec. Donc, on constate que le Québec n'a pas nécessairement intérêt à investir dans la voie maritime, comme il n'y a seulement qu'un tout petit tronçon qui la touche. Mm-hmm. Mais du côté américain, c'est vraiment à propos des ports de l'Atlantique, du Texas et l'industrie ferroviaire qui va faire pression. C'est les lobbyistes, en grande partie, qui vont freiner le développement de la voie maritime, ou du moins qui vont encourager les États-Unis à s'en dissocier, tout simplement parce que ces entreprises-là ont des intérêts majeurs économiques envers l'industrie ferroviaire et on trouve que ça va couper l'herbe sous le pied de cette industrie-là. Donc, d'investir dans la voie maritime va détourner les investissements de ces lobbyistes-là.
Oui, on crée une concurrence. Puis, si les bateaux arrivent, les chemins de fer vont perdre peut-être des parts de marché. Il y a une question de coût, évidemment. C'est une somme immense. Hein, je le disais au début, 1 milliard de dollars. Mais 1 milliard en 1958, c'est beaucoup d'argent. Il y a eu donc de ces obstacles, notamment de la part des Américains. Un rappel à ce sujet. Judith Jasmin, à notre télé, c'était le 1er mai 1958. On venait alors de lancer les travaux à Cornwall, en Ontario.
Il y a si longtemps que nos oreilles et celles de nos pères ont été rebattues de ces mots « canalisation du Saint-Laurent » que nous avions fini par ne plus y croire du tout. Certaines entreprises, de toute évidence, sont nécessaires, urgentes, profitables au plus grand nombre, et pourtant, leur réalisation semble hors d'atteinte. La canalisation du Saint-Laurent, malgré l'appui de tous les présidents américains, de Hoover jusqu'à Eisenhower, n'arrivait jamais non plus à passer l'ultime barrage du Congrès. Il a fallu les découvertes des gisements de fer du Québec et du Labrador, des menaces de guerre répétées, pour que les principaux adversaires des travaux, chemin de fer américain, port de la Nouvelle-Angleterre et le plus puissant New York, reculent enfin. En gros, que représentent ces travaux gigantesques inaugurés ce matin ? Depuis l'Atlantique jusqu'au cœur du pays, une voie navigable de 2000 miles de long.
Oui, effectivement, c'est un gigantesque chantier. On a peut-être du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais c'est aussi une merveille d'ingénierie, cette voie maritime. Comment vont se dérouler les travaux?
D'abord, les travaux, il y a deux volets. Évidemment, on veut construire une canalisation, on veut construire une voie maritime qui donnerait accès vers les Grands Lacs, mais les enjeux qu'on a trouvés, c'était celui de l'approvisionnement en eau. Parce que de faire fonctionner des écluses comme celle-là requiert quand même, comme je l'ai dit plus tôt, un niveau d'eau impressionnant. Et on s'est dit, pourquoi ne pas faire une pierre deux coups, utiliser cette eau-là dans des infrastructures hydroélectriques. Le projet de la voie maritime, c'est un projet d'uniformisation, de réaménagement des canaux déjà existants ou de création de nouveaux systèmes permettant le passage des navires de manière directe et sécuritaire, mais c'est aussi d'aménager tout un système hydroélectrique à certains endroits, notamment à Cornwall, qui va permettre de pouvoir accroître la capacité énergétique des régions.
Ouais, c'est comme si on voulait faire une pierre du coup, hein, un peu, là.
Tout à fait.
Ouais.
Donc, c'est à partir de 1954 que le chantier va débuter. C'est une opération qui est colossal, qui a lieu partout le long du fleuve et des grands lacs et qui nécessite un bassin de main-d'œuvre assez impressionnant, merci. On doit creuser, détourner le fleuve, construire des écluses, des barrages, aménager des infrastructures hydroélectriques. On doit même modifier certains ponts pour le passage des navires. Un élément intéressant qui est à souligner, on a dû rehausser le pont Jacques-Cartier de 15 mètres et de rallonger le pont Victoria sur son côté sud pouvoir assurer le passage des navires de façon plus efficace et accroître le tirant d'air des navires aussi.
Oui. Ben, ça nous donne l'idée de l'ampleur de ces travaux. La construction de la voie moderne, donc, qui sera terminée en avril 1959, après quelques années. L'inauguration officielle va se faire le 26 juin 1959. Évidemment, c'est un événement historique entre le Canada, les États-Unis. On veut marquer le coup. Pour preuve, cette émission spéciale de Radio-Canada, 26 juin 1959, à notre radio, c'est suivi d'un discours de la reine Élisabeth II.
Où que vous soyez au Canada ou en tout autre pays de langue française dans le monde, vous allez assister au commencement d'une ère nouvelle dans la vie d'un grand fleuve, la réalisation d'un rêve caressé dès le XVIIe siècle par les découvreurs de la Nouvelle-France et que le génie technique du XXe a permis de matérialiser. Sa Majesté la Reine Élisabeth du Canada et le Président Eisenhower des États-Unis vont conjointement inaugurer officiellement dans quelques minutes la nouvelle voie maritime du Saint-Laurent, dont le parcours depuis Montréal jusqu'au Grand Lac se trouve tantôt en terre canadienne, tantôt en terre américaine.
Cette réalisation ouvre en premier lieu un nouveau chapitre de l'histoire de la Confédération en établissant de nouveaux liens entre les deux principaux groupes ethniques dont la présence donne à la nation canadienne un caractère particulier. Le succès de cette entreprise démontre en outre qu'il est possible pour deux États voisins de coopérer dans un esprit de confiance mutuelle à l'édification d'une œuvre commune.
Discours donc de la reine Élisabeth II lors de l'inauguration le 26 juin 1959. C'est vraiment une grosse cérémonie. Même la reine est venue en bateau pour l'occasion.
C'est une cérémonie qui est, ma foi, énorme.
Oui.
C'est à bord du yacht Britannia, qui est le yacht personnel royal, qu'on va inaugurer la voie maritime. La reine Élisabeth II va longer le fleuve Saint-Laurent à partir de Gaspé jusqu'à Saint-Lambert. Donc, on va vraiment parcourir toute la distance possible du fleuve Saint-Laurent pour se rendre jusqu'à l'entrée de la voie maritime. Donc, c'est vraiment un symbole de la conquête vers l'Ouest. C'est vraiment une cérémonie qui va se faire en grande pompe, comme on l'a mentionné. Vont être présents le premier ministre du Canada, le président américain Eisenhower, qui va d'ailleurs donner son nom à l'une des écluses du côté américain. Et on a le yacht qui va être accompagné par des curieux en bateau qui vont le suivre jusqu'à Saint-Lambert. Des discours vont être prononcés par la reine, le premier ministre, le président américain. Ces dignitaires-là vont monter à bord du yacht pour une petite croisière qui va parcourir les Grands Lacs. Donc, au signal, l'étrave du yacht passe les portes de l'écluse de Saint-Lambert sous un tonnerre d'applaudissements, ce qui va marquer la fin des travaux et le début d'une nouvelle ère maritime vers l'ouest.
Oui, effectivement. On disait, bon, un ouvrage assez exceptionnel qui a eu des conséquences pour les riverains. Vous avez mentionné, bon, le nombre de travailleurs. Écoutez, tout ce qu'il fallait faire, c'était assez grandiose. Il fallait loger ces travailleurs, ce qui n'était pas simple. Hein. Cornwall en est un bel exemple de ça, là.
Tout à fait. En fait, le chantier va mobiliser pour l'entièreté de la voie maritime 500 ingénieurs et 22 000 ouvriers. On va engager des gens de l'extérieur, mais essentiellement des gens locaux. Donc, à Cornwall, par exemple, dès 1954, on voit un afflux de main-d'œuvre qui vient de l'extérieur et en très grande partie des campagnes environnantes. Sur les chantiers hydroélectriques, par exemple, en janvier, 91% des travailleurs viennent d'un rayon de 35 000 autour de Cornwall. On a une bonne partie des ouvriers qui sont des ruraux, qui rentrent chez eux le soir. Mais à partir de 1951 à 1956, la population va augmenter de 8 000 habitants, va passer de 38 000 à 46 000 personnes, une augmentation de 21% en 5 ans. On voit un peu comme une terre promise de l'emploi, la région de Cornwall. On voit aussi des changements importants dans le marché local du travail. Sur les chantiers de la voie maritime, par exemple, les ouvriers sont payés 3,50 $. C'est un salaire assez intéressant en comparaison au secteur de la construction où le salaire est de 2,10.
Ah oui.
Donc, on comprend que les conditions sont vraiment très bonnes et les ouvriers des autres secteurs se retrouvent à délaisser temporairement leurs occupations traditionnelles pour le chantier, ce qui amène un déséquilibre dans les occupations, un bouleversement dans la situation économique. Donc, les postes qui étaient nécessaires au bon fonctionnement de la ville ou au fonctionnement de l'économie locale se retrouvent à être non occupés. Mm-hmm. Donc, on voit rapidement
tout le monde voulait travailler pour la voie maritime du Saint-Laurent parce que, d'une part, c'est payant. On comprend donc, il y a des problèmes qui viennent avec la main-d'œuvre, pénurie de main-d'œuvre, entre autres. Et il y a tous les autres, puis on l'entendait lors du premier extrait en introduction, tous ces gens qui ont été expropriés, des maisons qui ont été démolies, des territoires inondés également.
Effectivement. On voit des répercussions, par exemple, en fait, pour construire la voie maritime elle-même, pour construire les écluses, pour construire les barrages, on doit réaménager les rives, on doit creuser, on doit faire couler de l'eau aussi. Donc, ça va avoir des répercussions sur des municipalités comme La Prairie, Kanawagé, Beauharnois, Cornwall, Lonceau, Moulinette. En fait, ce sont 525 habitations qui vont être déménagées et plus de 700 démolies. Pour certaines de ces maisons-là, on va leur donner un délai seulement de 24 heures pour quitter la maison. Évidemment, on offrait à ces gens-là une compensation financière, en fait, la valeur marchande de la maison. Donc, ça amène un enjeu important pour ces gens-là. Est-ce qu'on reste à la maison? Est-ce qu'on déménage la maison et on l'habite ou on la vend complètement au gouvernement? Et effectivement, il y a plusieurs secteurs qui vont être complètement inondés. On parle même de plusieurs communautés qu'on appelait les villes perdues. Donc, ils sont immergés
sous l'eau, hein, pour faire de la place à la voie maritime. Ben, un exemple ici, Judith Jasper, encore une fois, notre télé en mai 58, l'émission Carrefour.
D'autres gens, ailleurs, devront quitter les lieux, se transplanter. Ainsi, M. Dubeau, propriétaire d'un établissement de motel juste en face de l'endroit où s'élèvera le nouveau barrage entre Cornwall et l'île Barnard, nous disait ce matin.
Est-ce que c'est vous qui avez construit ces motels?
Oui, je suis arrivé ici en 1950. Donc, il y avait du bois même jusqu'au chemin, puis j'ai pensé qu'il y avait une très belle place ici. Puis j'ai construit ça avec l'intention de demeurer ici toute ma vie.
Et est-ce que vous allez être obligé de déménager, de quitter tout ça?
Oh oui. Le plus long que je pourrais rester ici, ce serait une couple d'années s'ils sont généreux avec moi. Mes voisins sont expropriés même, mais il faut qu'ils sortent, s'en aillent.
Et qu'est-ce qui va se passer ici, quand vous serez parti, vous?
Suivant qu'est-ce qu'ils nous disent, les ingénieurs, il va avoir 30 pieds de perte d'eau par-dessus ici.
Par-dessus vos motels?
Oui.
Et est-ce que ça vous fait quelque chose de partir?
Oui, ça me... pour la place, les arbres, c'est tellement beau, c'est le rêve de ma vie pour ma vieille âge de rester ici tout le temps.
Et vous avez peur de ne pas trouver aussi beau ailleurs?
Je ne pense pas qu'il y ait une place entre Montréal et Toronto d'aussi belle que celle-ci.
Oui, c'est triste, hein? Déçu, mais résigné, puisque c'est le progrès, ce qui reflète effectivement l'esprit de l'époque. Hein? Il fallait construire, il fallait faire place à la modernité. Même s'il y a des acteurs économiques, en fait, la plupart des acteurs économiques à Montréal avaient des craintes par rapport à la voie maritime. Ils craignaient pour l'avenir de Montréal et le déclin de Montréal et du port de Montréal.
Le port de Montréal était vu, en quelque sorte, si on veut, comme, la finalité de la navigation sur le Saint-Laurent.
C'est ça.
On considère qu'on peut pas nécessairement facilement aller plus haut. C'est pas rentable d'aller vers les Grands Lacs. Donc, étant positionné comme un des ports majeurs de l'industrie de l'époque, Montréal va voir ça un peu d'un mauvais œil, pensant que il allait perdre son statut de, justement de plaque tournante. Par contre, ce qui est arrivé, contre toute attente, c'est vraiment le contraire. Ce qui a permis à Montréal de se démarquer, de pouvoir s'affirmer en tant que voie d'entrée de la voie maritime, mais aussi en tant que port majeur, c'est vraiment l'implantation de certaines des compagnies maritimes à Montréal. Donc, les compagnies qui avaient leur siège social à l'extérieur, à New York, à Boston, à Toronto, voyant que Montréal est une ville bien située sur l'extrémité de la voie maritime et le point d'entrée de celle-ci, on va décider d'implanter les sièges sociaux. On pense par exemple à Canada Steamship Lines, qui va avoir notamment son siège social à Montréal et qui va faire en sorte que Montréal va rester sur la carte des ports majeurs de tout le système du fleuve Saint-Laurent.
Oui, tout à fait, du nord-est américain. Même si certaines villes des Grands Lacs en ont profité, notamment Toronto, hein, c'est ce qu'on prédisait en juillet, dans les actualités, juillet 1958. On va écouter l'extrait du reportage. C'est suivi des propos du maire Jean Drapeau, plus rassurant, un petit peu plus tard, en décembre 1961.
Maintenant que la nouvelle voie maritime du Saint-Laurent est une possibilité qui se réalisera prochainement, les experts ont tenté d'en prévoir les répercussions sur le commerce de Montréal. En effet, la métropole risque de voir une partie de son trafic maritime lui échapper en permettant aux cargos de remonter plus à l'intérieur des terres. Jusqu'ici, Montréal a bénéficié du commerce des gros bâtiments qui ne pouvaient s'engager dans le trop étroit canal de la Chine. La situation risque toutefois d'être fort différente avec l'ouverture l'été prochain de la voie maritime du Saint-Laurent. La ville qui profitera davantage de la voie maritime sera Toronto. En effet, comme une partie du commerce de Montréal s'acheminera vers les Grands Lacs, il est à prévoir que la ville reine sera la plus favorisée de toutes. En outre, il semble inévitable que des lignes océaniques soient prolongées jusqu'à Toronto.
Il semble que ces craintes, tout en partant d'un bon naturel, ne sont pas justifiées puisque la canalisation du Saint-Laurent a eu et aura un bon effet sur le port de Montréal et sur la vie économique de la métropole du Canada.
Propos donc du maire Jean Drapeau, c'était en décembre 1961. Alors, 60 ans plus tard, évidemment, ça demeure une autoroute fluviale majeure, cette voie maritime, quelque chose d'assez particulier dans le monde maritime. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, tout ça?
La voie maritime, en fait, aujourd'hui, on peut compter 15 écluses entre Saint-Lambert et Port-Colborne. On peut compter aussi 6 canaux. Et c'est quand même un système qui est colossal. La voie maritime, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est 740 pieds de long par 70 pieds de large pour un tirant d'eau de 26,5 pieds. Donc, c'est vraiment les dimensions maximales qu'un navire peut avoir dans la voie maritime. Et on va développer une classe de navire. En fait, on va caractériser une classe de navire qu'on appelle la Seaway Max, donc qui est la grosseur maximale pour la voie maritime. Et dans la construction navale internationale, on va vraiment classifier les bateaux propres à la voie maritime.
Oui, tout à fait. C'est quelque chose d'assez unique hein, qui est présent dans notre culture maritime canadienne. La voie maritime du Saint-Laurent, puis les Grands Lacs, comme vous avez dit, avec ces bateaux qui sont particuliers, hein, les vraquis des Grands Lacs. Mon invité, je rappelle, William Lacasse, il est chercheur en ethnologie à l'Université Laval, spécialisé en patrimoine maritime. Il nous parlait depuis nos studios à Québec. Merci beaucoup d'avoir été là.
Je vous en prie.
Merci également à toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Maxime Coutier, là-dessus, bonne soirée. À demain. Au revoir. Pour écouter tous les épisodes d'Aujourd'hui l'Histoire, puisqu'il y en a d'autres, rendez-vous sur Radio-Canada Audio.